11h12, reprise sur le plateau en direct. Je vous rappelle que c'est la fête de la radio. Le 5, c'était hier. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 en direct sur le plateau. Olivier, deux invités d'importance.
Et oui, Nathalie, nous suivons cette matinée en direct avec effectivement deux invités d'importance. Tout d'abord, François Malabaf, tout le monde le connaît sur Fréquence Mistral. Il s'agit de notre ancien directeur, garde à vous.
Bonjour à tous les deux, repos.
Merci François, et qui est actuellement au conseil d'administration de la radio. Et j'ai le bonheur, nous avons le bonheur, d'ailleurs François va travailler aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'avait pas pratiqué le micro, puisque nous avons une invitée exceptionnelle, il s'agit de Sylvie Gionneau. Bonjour, bonjour madame.
Bonjour, exceptionnel, non.
Mais moi
enfin,
si.
Je suis là pour répondre aux questions, si vous en avez.
Oh ben, finalement, peut-être. Nous allons voir
peut-être,
ça.
Peut-être.
Bien, justement, on va commencer par une actualité. Vous êtes présidente de l'association des amis de Jean Giono, c'est cela ?
Oui, président
d'honneur.
Non, il y a un président qui est, effectivement travaille beaucoup plus que moi. Moi, je supervise un petit peu tout ça, mais je suis en retrait. Parce que j'ai dépassé l'âge de la retraite depuis fort, fort longtemps. Mais je suis toujours efficace et je surveille l'association quand même.
Vous avez l'œil. Il y a des choses à surveiller.
J'ai toujours... bien sûr, il y a toujours des choses à surveiller. Voilà. Et puis à annoncer des bonnes nouvelles, par exemple, aussi.
Alors, de toute façon, parmi les bonnes nouvelles, en tout cas, nous fêtons la radio. Nous la fêtons à Manosque sur Fréquence Mistral. Et Manosque et Jean Giono, c'est difficile de les dissocier. C'est plus
c'est
qu'un homme important. C'est pas possible.
Que pensez
réellement de Manosque, votre père ?
Alors là, il y a beaucoup de choses à dire.
Nous avons
de
le temps.
De la ville même ou des habitants ? Parce que c'est différent.
Les deux. Bon, on va commencer
les
par
deux.
La ville. On va commencer par l'urbanisme.
La ville, il l'aimait beaucoup, bien sûr. Mais, vous savez, mon père était un enraciné. Donc, il était enraciné à Manosque, bien que ce soit un pays qui ne lui convenait pas. La Provence ne lui convenait pas. Parce qu'il craignait la chaleur. Alors, quand je vois la chaleur qu'il y a en Provence en ce moment, ces dernières années, chaque fois je pense à mon père en me disant « c'est pas possible, il n'aurait pas pu rester dans ce pays-là ». Il souffrait terriblement. La ville, il l'aimait, mais malheureusement, il voyait l'évolution de cette ville qui se dégradait. Il pensait vraiment que cette ville perdait son charme au fur des années, comme ça, au fur et à mesure. Lui, il était toujours là, donc il voyait au fil des années l'évolution et aux maires successifs. Et je crois que c'est ce nouveau maire qui en fait a compris qu'il fallait garder le potentiel de cette ville et en faire quelque chose que les gens ont envie de venir voir. Avant, il y avait de plus en plus, il y avait de moins en moins plutôt de choses à voir dans cette ville.
Et vous pensez
tout
que
ce qui était beau était démoli. Les belles choses disparaissaient pour en faire des supermarchés, pour en faire des parkings, tout ça. Maintenant, on est un peu, on est revenu un petit peu en arrière, ce que, bien entendu, c'est quelque chose d'abominable de revenir en arrière. Revenir, non, c'est pas possible. Mais quand je vois, par exemple, l'avenue de mon père, qui va redevenir à une voie, avec des arbres plantés, tout au moins au début, eh bien, on retourne au Manosque des premières années de la jeunesse de mon père.
Et puis socialement, est-ce qu'il y avait des choses qui sont dégradées ou c'est simplement le côté
urbanisme ?
Non, c'est
l'incompréhension totale qu'il y a toujours eu du vivant de mon père, qui s'est prolongé aussi après, des gens de Manosque. Au début, quand mon père était jeune et travaillait dans une banque, il est resté quand même employé de banque pendant 17 ans, bon, il faisait partie de la population active, donc il n'y avait rien à dire. Il était dans le cadre. Le jour où il a quitté la banque pour essayer de vivre de sa plume, l'incompréhension s'est installée avec les habitants de Manosque, qui étaient à l'époque uniquement des commerçants et des paysans.
Des paysans.
Et des artisans.
Et ça ne représentait pas une valeur travail d'écrire.
Donc, faire travailler son esprit, écrire des livres, pour eux c'était incompréhensible, d'autant plus que mon père avait quitté quand même l'école à l'âge de 16 ans. Ma mère ayant fait des études, les premiers livres de mon père ont été compris par les manosquins comme étant écrits par ma mère et signés par mon père. Alors une espèce de dédain total s'est installé vis-à-vis de cet homme qui ne faisait rien, qui faisait travailler sa femme et qui signait simplement Jean Giono le bas de ses romans.
Il est resté à Manosque tout de même.
Mais oui, parce que il était indifférent à tout ça. Lui, il vivait, la vie réelle l'intéressait peu. Il se promenait dans Manosque, mais il finissait par ne pas voir les gens, parce qu'il vivait sur un autre monde, vraiment dans ses nuages, dans ses pensées, dans le monde qu'il s'était créé. Ma mère en souffrait un peu, bien sûr.
Il avait des liens d'amitié tout de même, votre père, fort.
Il avait des amitiés, oui, des amitiés scolaires, il avait des amis, et notamment un maire de Manosque, qu'il traitait de tous les noms d'ailleurs, parce que, oui.
Un maire qui s'appelait comment?
Aubert Millot.
Ah, c'est Aubert Millot. Aubert Millot.
Aubert Millot.
Nous étions sur son esplanade hier.
Voilà, qui a commencé déjà à massacrer Manosque, allègrement, au désespoir de mon père d'ailleurs. Voilà. Mais il le connaissait très bien.
Alors, Sylvie Gionneau, il y avait un homme très important que François, évidemment, a bien connu, que nous regretterons beaucoup. C'est Jacques Meny.
Évidemment,
on va expliquer qui est Jacques Meny.
Avec beaucoup d'émotion, et Sylvie va m'accompagner dans cette émotion, évidemment, c'est Jacques Meny, l'ancien président de l'Association des Amis de Jean Genot, avec qui j'ai eu le bonheur, le plaisir, l'honneur de faire plusieurs émissions où vous étiez présente également, Sylvie. C'était un puits de connaissances incroyables sur l'œuvre de Jean Giono, un partageur de cette œuvre, un membre extrêmement dynamique de cette association. Il a tiré cette association vers le haut, en a fait un outil social et culturel de premier ordre et de premier plan ici à Manosque, dans la ville de Giono. Et c'est avec un grand bonheur que j'avais travaillé avec lui. On a fait plusieurs émissions. Vous parliez tout à l'heure des gens de Manosque, mais notre émission, c'était Jean de Manosque, un seul Jean. Oui, il n'y avait qu'un seul Jean.
Non, Jean, ça s'écrit J-E-A-N à ce
tout
moment-là.
Tout à fait. Voilà. Et c'est le miracle de la radio que de trafiquer l'orthographe, vous le savez. Alors, j'ai eu le bonheur de faire plusieurs émissions. J'ai eu des émissions dans les Jardins du Paraïs, je me souviens que c'était merveilleux, magnifique, avec notre ami Patrice qui nous a quittés, qui assurait la régie. Et c'était fantastique. Pendant les rencontres Giono, pendant les journées Giono, et c'était dans cet endroit tutélaire, quoi, sous ces arbres magnifiques, d'avoir toutes ces personnes qui bouffaient du Giono toute l'année, quoi. Et donc, pour moi, c'était, moi qui suis manosquin d'adoption, c'était extrêmement important, quoi, d'être là. Et puis j'ai été biberonné, je le disais tout à l'heure en rantaine avec Sylvie, j'ai été biberonné à l'œuvre de Giono, que ce soit ses romans, évidemment les plus célèbres, hein, et puis des textes qui sont ô combien d'actualité maintenant. Je pense à Lettre aux paysans, Refus d'obéissance, mais il faudrait que tous les soldats lisent Refus d'obéissance, parce que bon, peut-être qu'on aurait une planète qui tournerait un petit peu mieux. Et La lettre aux paysans, c'est pareil, Rondeur des jours, qui sont des textes magnifiques, des textes presque de jeunesse de Jean Giono.
Et Recherche de la pureté aussi.
Évidemment. Et beaucoup d'autres qui sont magnifiques. Et donc, j'avais partagé ça avec Jacques. Je me souviens aussi de plateau avec Emmanuel Lambert, qui a fait un Giono Furioso magnifique. On avait en plateau Clémentine Mélois aussi, qui a trafiqué
formidable et drôle, hein.
Une bibliothèque imaginaire de Giono, qui a été plébiscitée au MUCEM à Marseille. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis ces personnages qui ont gravité autour de Giono, je pense à Serge Fiorio, un peintre incroyable, Lucien Jacques, évidemment. Donc tout ça, ce sont des souvenirs pour moi, qui sont des souvenirs de radio, mais bien plus que des souvenirs de radio. Ça a marqué ma vie, Giono. Et puis Sylvie, nous avons eu, figurez-vous, le même professeur au lycée de Manosque, un certain Jean Guémard.
Oui,
que j'ai eu le grand plaisir d'interviewer une fois que j'étais journaliste et plus du tout élève. Jean était un personnage quand même.
Oui, c'est le seul professeur qui a noté mon père.
Alors voilà, c'est l'anecdote que je voudrais que vous racontiez.
Après, qui a noté les romans ou qui a noté...
Non, elle va vous raconter.
Non. C'est la seule fois où j'ai demandé à mon père de m'aider pour faire une rédaction qui m'ennuyait. Le sujet ne m'intéressait pas. Et c'était vraiment la première fois. Je n'avais jamais demandé de l'aide à mon père. Cette fois-ci, je suis montée dans son bureau en disant « Papa, aide-moi, demain je dois rendre un devoir. Je ne l'ai absolument pas commencé, je ne sais pas, je ne sais pas que mettre. » Alors il regarde le sujet, il me dit bon, « c'est très simple Sylvie, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Tu vas voir et ça va te servir de modèle pour plus tard, pour rédiger, tu vas voir l'entrée, le tout. Mais je veux que tu ne changes rien. Tu le recopies, tu ne changes pas un mot parce que c'est parfait. » Me dit-il. Bon, alors toute contente, je le remercie bien, je l'embrasse, il me pond mon devoir et je le recopie tel quel. Et là-dessus, le lendemain, je le donne à Monsieur Guémard. Et puis après, papa a attendu sa note.
Ah oui.
Voilà, alors deux, trois jours après, incidemment, à l'heure du repas, il m'interrogeait jamais sur ce que je faisais en classe. Mais là, quand même, il me dit est-ce que ça se passe bien au lycée? Est-ce que ça marche bien en français? Il attendait. Je lui disais papa, ne t'inquiète pas, je n'ai pas reçu encore la note. Et puis un jour, la note est arrivée. Moi, je suis arrivée à table à midi avec un grand sourire. Et je lui dis papa, ça y est. Tu as été noté, et il y avait écrit par Jean Guémard, 12, un peu mieux que d'habitude. Et mon père était absolument furieux.
Alors c'est une belle anecdote, n'est-ce pas? Et moi j'en ai une autre avec Jean Guémard. Évidemment, Jean avait eu cette chance incroyable d'inviter votre père au lycée Esclangon à Manosque. Je me souviens avoir vu, j'étais tout gamin, les huiles du lycée passaient à un endroit particulier et tout. Et la rencontre de Jean Guémard avec Jean Giono et ses élèves a été enregistrée.
Ah,
et
cet
enregistrement a été diffusé lors des journées de Giono. Et quand j'ai été en première avec justement Jean Guémard ou un autre professeur, je ne sais plus, on a écouté cet enregistrement et là j'étais fasciné parce qu'il y avait la voix de Giono, il y avait le verbe de Giono devant des jeunes, autrement dit la jeune génération. C'était en 1969, c'est-à-dire pas longtemps avant son décès, et il était ravi. Et je crois que ça ne se faisait pas à l'époque, de rencontrer pour un écrivain, un académicien concours quand même, rencontrer des élèves. Et Jean m'avait dit, oh mais c'est rien du tout, Jean Guémard, c'est rien du tout, il est venu tout simplement pour rencontrer les jeunes. Je dis non, parce qu'il vous admirait et en même temps il appréciait votre travail et il avait soif de rencontrer la jeunesse. Et je me souviens avoir écrit sur Jean Guémard, qui malheureusement nous a quittés, comme beaucoup d'autres. Et il m'avait dit, mais non, vous avez exagéré. Et j'ai dit, je suis désolé de vous contredire. Je maintiens ce que j'ai écrit. C'est pour vous faire plaisir que Jean Giono est venu. Et on est dans une vérité, quoi, véritablement.
Nathalie, une petite pause musicale, en fait, musicale, un petit micro-trottoir autour de la radio.
Les 5 et 6 juin, deux jours de direct sur nos antennes pour la fête de la radio.
Magda, on connaît votre voix sur Fréquence Mistral grâce à un petit jingle en guarani, c'est assez exceptionnel.
Oui, c'est ma langue maternelle, c'est ce que j'ai appris, c'est la première chose que j'apprends avant l'espagnol.
Et là, vous êtes en France depuis combien de temps?
Ça fait 26 ans cette année.
Est-ce que vous écoutez la radio?
Beaucoup. Ici en France, j'ai écouté beaucoup avant RMC, étant donné que j'habitais à Quinçon et qu'à Quinçon, il n'y avait que ça. Mais ma radio préférée tous les matins, c'est France Inter.
Qu'est-ce que vous aimez écouter?
Affaires sensibles. J'adore tout ce qui est information. J'adore la radio, en fait.
Et lorsque vous étiez au Paraguay, vous écoutiez la radio?
Oui.
Vous m'avez dit qu'il y avait 3 radios là-bas.
Oui, il y en avait plus, mais bon, après, il y avait la radio de l'État, la radio religieuse, enfin catholique, et il y avait une radio qui était, qui était là un peu pour critiquer le gouvernement, mais pas vraiment, parce que c'était à l'époque de la dictature. J'aimais beaucoup la radio de l'État parce qu'on écoutait beaucoup la musique classique. Classique de tout, de Beethoven, de Mozart et tout ça. Et aussi, on mettait beaucoup les chansons typiques paraguayennes. La radio religieuse, je n'écoutais pas beaucoup parce que c'était pas intéressant pour un enfant de mon âge à l'époque. Et on avait aussi beaucoup de théâtre à la radio. Et ça, j'ai adoré.
Du théâtre radio diffusé.
Oui, 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 j'ai adoré ça.
Ça en espagnol?
En espagnol. Souvent, enfin, mélangé. Au Paraguay, on parle un truc qui s'appelle le jopara. Ça veut dire le mélange de guarani et espagnol. Parce que le vrai guarani pour parler, c'est hyper difficile.
Ce mélange de langues guarani-espagnol?
Jopara.
Et beaucoup de gens le parlent.
Beaucoup de gens le parlent. Et le jopara aussi, c'est une nourriture au Paraguay, ça s'appelle. Ça s'est mélangé avec du maïs et des haricots. Ça s'appelle jopara. Jopara, ça veut dire mélange.
Et de toute façon, le guarani est une langue extra-paraguayenne, parce que c'est la langue de l'Amazone, hein, c'est ça?
Ouais, mais bon, après, c'est au Paraguay qu'on parle le plus. Et au Paraguay, c'est, en fait, c'est une langue officielle. Que dans les autres pays, c'est pas pareil. Parce que les gens, ils ne le parlent plus, en fait, beaucoup, vraiment.
Oui, on n'a pas reconnu l'existence des Indiens au Brésil. Ils sont plus reconnus au Paraguay?
Les Indiens, ils sont toujours la même problématique partout. Hein. Reconnus ou pas reconnus, c'est... Enfin, les Paraguayens, ils adorent leur langue, mais par contre, ils oublient qui c'est qui l'a parlé en première.
Fréquence Mistral fête la radio les 5 et 6 juin.
Ah bon ?
Eh oui.
Mistral. Les 5 et 6 juin, deux jours de direct sur nos antennes pour la fête de la radio.
De retour en plateau avec Sylvie Gionneau et François Malabave. Alors François, je vous retrouve non pas en tant qu'ancien directeur ni trésorier du conseil d'administration de Fréquence Mistral, mais à nouveau de l'intervieweur et du journaliste. Vous vouliez évoquer de nouveau le Paraïs, je crois.
Oui, parce que, alors, je suis trésorier d'une association, d'un conseil d'administration. C'est pas pareil.
Non, c'est l'association qui est un conseil d'administration.
Voilà, tout à fait.
Oui, mettons.
Alors oui, le Paraïs, alors, pour nos auditeurs de Briançon et de Marseille qui ignorent un petit peu cette cité magnifique qu'est Manosque, c'est la maison de Jean Giono, avec de gros travaux actuellement pour revisiter cet endroit et puis en faire un emblème de Manosque et de la littérature de Giono.
Un lieu magnifique et très marqué par la présence, jusqu'à présent, qui était marqué par la présence de Jean Giono.
Et oui, tout à fait. Donc bon, avec une excroissance particulière, mais dans la prolongation. Je reviens au Paraïs originel, on va dire ça comme ça. On a vécu, Sylvie, vous l'aviez accueilli, de grands moments au Paraïs, notamment la visite d'un prix Nobel, Mario Vargas Llosa, qui est décédé il y a 2 ans. C'était un moment magique, magnifique. Un grand homme, un écrivain qui était anxieux de voir dans la bibliothèque de Giono ses livres. Et Giono avait une habitude, il notait. Un peu comme Jean Guémard, oui. Quoi. Il notait ses lectures, et donc Vargas Llosa était un peu anxieux de se dire combien est-ce qu'il a mis à mon livre et tout, et heureusement son livre n'était pas noté. Donc, vous vous souvenez de ça, Sylvie ?
C'est pas noté, c'est plutôt annoté.
Annoté, oui,
mais... C'est-à-dire avec qu'il parfois... faisait des petites réflexions
voilà.
Dessus, ou bien, quelquefois, ça n'avait aucun rapport, quelquefois, avec le livre qu'il lisait. Mais c'était une phrase qui lui venait à l'esprit. Il n'avait pas de papier, donc en marginalia, il écrivait cette phrase. Mais il ne fallait pas chercher une relation avec le livre lui-même.
Donc
aussi.
Ce n'est pas Jean Guémard. Jean Giono n'est pas Jean Guémard.
Non, bien. Pas. Il n'a jamais été professeur, heureusement.
Mais pour revenir à la visite de Mario Vargas Llosa, c'était magnifique parce qu'on avait un écrivain péruvien qui venait dans cet antre de la littérature et où se disait mais ici a été écrit l'Iris de Suse, là le Hussard sur le toit, etc., etc. Et il était fasciné par ce qu'il voyait. Vous l'aviez accueilli, Sylvie, avec une grandeur d'âme incroyable. Jacques Méni, évidemment, était là aussi. C'était un grand moment. Et puis, puisqu'on parle des écrivains qui sont disparus et qui adoraient Jean Giono, comment ne pas parler d'Edmond White, qui vient de disparaître, grand écrivain américain, porteur de la cause LGBT aux États-Unis. Imaginez, même avant Trump, c'était difficile. Mais alors maintenant... C'est impossible. il vient de nous quitter. C'était un grand admirateur de Jean Giono. Il était présent au Paris.
Il était venu, il est venu. Et c'est grâce à lui que les traductions de mon père, des livres de mon père, ont repris en Amérique. Depuis la visite d'Edmund White, les traductions s'accélèrent en Amérique. Et les éditeurs sont très contents. Donc, mon père est de plus en plus lu. Peut-être ça va s'arrêter grâce à Trump.
Mais il me semble que c'est un des auteurs les plus traduits en France.
Ah oui.
Mais j'ai quand même le sentiment, lorsqu'on évoque Jean Giono, qu'il faille toujours expliquer Jean Giono, comme si les gens avaient besoin de le découvrir. Le grand public connaît pas vraiment Jean Giono, j'ai l'impression, à moins que je me trompe.
Mais la lecture de Giono est difficile quand même.
Oui, ce n'est pas du Pagnol.
C'est pas la décoration, ça c'est certain.
C'est plus facile, oui.
Quel est votre livre préféré, Sylvie?
De
votre père.
C'est difficile à dire, ça dépend du moment. J'ai besoin quelquefois de relire tel texte, parce que c'est un besoin presque physique. Voilà. Alors, mais ça dépend. Si je suis plus romantique, dirons-nous, je passe sur le hussard, bien sûr. Mais je crois qu'un de mes livres préférés, c'est quand même Un roi sans divertissement. Mais j'ai pas beaucoup de tendresse, par exemple, pour l'Iris de Suse, parce que ça représente le dernier livre, le dernier roman de mon père. Je le revois à la fin de sa vie. Donc, c'est lié à beaucoup d'émotions. C'est un livre qui me touche beaucoup et même en le lisant, je retrouve d'abord les idées premières de ses premiers textes. Il reprend les mêmes textes que d'avant la guerre, d'avant 1939, mais avec un style éblouissant. Et vraiment, là, c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais je vous dis, ça dépend des moments.
Vous l'avez répété à plusieurs reprises lors de différentes interviews, vous avez une enfance heureuse, vous avez un père.
Oui. Très, très,
ça
très
se sent encore.
Hein. Oui, très heureuse. Mais c'est ça, je le remercie beaucoup parce qu'il m'a donné cette espèce de goût du bonheur qu'il avait et qu'il nous avait transmis, bien sûr, dans la famille. C'est-à-dire, ce n'est pas les grands bonheurs qu'on attend. C'est pas une richesse énorme, c'est les petits bonheurs journaliers de, voyez, une belle journée comme aujourd'hui, de venir peut-être parler ici de mon père, c'est un plaisir pour moi aussi. Rien que ça, ça illumine ma journée, ça me suffit. Et ça, je le dois à mon père.
Parce qu'on évoque Jean Giono, évidemment le Paris dont parlait François à l'instant. Le Paris, c'était votre maison?
Oui, c'était ma maison, mais c'était le creuset de l'œuvre de mon père.
Bien sûr, bien entendu.
Le creuset. C'est vraiment, dans toute la France, je crois qu'aucun auteur français n'est resté au même endroit pour écrire toute son œuvre. Ni Marcel Proust, aucun n'est resté au même endroit, sauf mon père. Toute son œuvre, même quand il s'en est éloigné, quand il partait, bien sûr, il écrivait toujours, mais il ne rédigeait pas un roman entier. Il prenait des notes, il écrivait des pages, mais la rédaction finale, tout ça se passait au Paris. On peut penser que pratiquement toute son œuvre, grande partie, c'est au Paris que ça s'est passé.
François, sur Fréquence Mistral, la littérature a une place d'importance. On peut évoquer les correspondances ou des écrivains que vous avez reçus. Vous avez des expériences ou des anecdotes à ce sujet?
Alors oui, j'ai des anecdotes en préparant cette entrevue. Vous savez que ma voix s'est coupée à Fréquence Mistral depuis 2 ans. Donc je me suis dit de quoi je vais pouvoir parler et effectivement parler de littérature. Donc je suis ravi d'être aux côtés et très honoré d'être aux côtés de Sylvie Giono. Mais j'ai eu beaucoup la possibilité de faire beaucoup d'interviews, probablement des milliers d'interviews, des milliers de reportages. Et dans ces interviews, dans ce gros paquet de communication et de radio, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, véritablement. Dans les années 80, je me souviens très bien, au début de la radio, d'avoir aidé à l'émergence des Nuits de la Citadelle à Sisteron, par exemple, en interviewant ce grand monsieur qui était Pierre Colomb, en interviewant Edith Robert, et puis évidemment des musiciens qui étaient invités, Marielle Nordman, magnifique harpiste, Pierre Amoyal, le violoniste très, très célèbre, qui avait joué avec, sous la direction d'Herbert von Karajan. C'était 3 jours après le décès du Karajan, c'était exceptionnel. Et puis après, à Manosque, oui, vous avez cité les correspondances, donc vous savez que mon principe, c'était de recevoir des écrivains, mais...
Chaque jour pendant le festival. Hein.
Et surtout d'avoir lu leurs livres, ce qui n'est pas malheureusement très fréquent dans ma profession, dans la profession que je professais, pour dire les professionnels de la profession, quoi, en quelque sorte. Donc j'ai eu le bonheur d'accompagner, puis de voir grandir des écrivains, Alice Zéniter, Sylvain Prudhomme, tous ces gens-là qui sont maintenant de très bons écrivains et qui étaient en résidence à Manosque, et donc qu'on a vu se développer, et on les revoit chaque année avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et en même temps, ce sont des gens, Miguel Bonnefoy, par exemple, aussi, qui a obtenu le prix Fémina cette année. Bref, c'est des bonheurs incroyables que j'ai pu vivre ici à la radio grâce à ces personnes. J'ai parlé d'Emmanuel Lambert aussi tout à l'heure, donc j'en oublie beaucoup. Et puis, évidemment, vous le savez, Olivier, j'ai démarré dans ma vie en faisant de la musique. Et la musique et la radio, c'est assez voisin quand même.
Oui, il y a quelque chose.
Et j'ai eu le plaisir d'interviewer des musiciens, et des musiciens intéressants, importants. Je pense à Charlie Couture, par exemple. Je pense à la Chica. Enfin, des gens qui ont apporté énormément de choses. J'ai parlé de musiciens classiques et romantiques tout à l'heure. D'accompagner aussi les rencontres musicales de Haute-Provence avec les frères Queyras, la famille Queyras. Un festival incroyable. Un autre festival, évidemment, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, ce sont les Nuits photographiques de Pierre Vert, depuis le début. Quand vous avez Olivier Toscani, Bernard Plossu,
Sarah Moon,
tous ces gens-là en plateau, vous êtes sur un petit nuage, quoi. Franchement, on est ravis d'avoir fait ça. Et heureusement, il y a certaines de ces émissions, de certains de ces moments qui sont toujours disponibles sur notre site internet et qu'on peut revoir. Et donc quand Olivier Toscani est décédé, j'ai fait savoir à mes amis de Pierre Vert, j'ai dit écoutez, vous pouvez réécouter cette interview, c'était magnifique. J'ai demandé à Olivier Rot, vous savez, Sylvie, c'est ce photographe italien qui était très provocateur sur le racisme, sur le sida, enfin sur des tas de choses. Et j'avais dit à Olivier Rot, ouais, mais votre fond de commerce, c'est la provocation, et quand même un artiste, vous avez aussi besoin d'être près des gens et puis de pouvoir vivre et tout. Et il m'avait répondu cette chose incroyable, il m'avait dit, mais qui se souvient du nom du pape qui a commandé la Sixtine à Michel-Ange? Personne. Par contre, Michel-Ange, ben voilà. Et j'ai trouvé cette réponse magnifique parce que c'est toute l'universalité de l'art qui transparaît par ça. Olivier Toscani qui a marqué, il y a Artus Bertrand, enfin plein de photographes comme ça, de grands talents qui sont venus à Pierre Vert. On attend avec impatience le programme de cette année, sachant qu'ils ont des difficultés financières.
On a reçu Henri Cartman avec Nathalie dans Ça se comprend il y a quelques semaines, le formidable Henri d'ailleurs.
Oui.
Et oui, c'est compliqué.
Alors c'est compliqué, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que c'est une chance et un bonheur pour Manosque et pour le département d'avoir un festival, le premier festival dédié à l'image dans les Alpes du Sud.
Oui, je le disais tout à l'heure, c'était pas l'an passé, c'était il y a deux ans, Sarah Moon qui était présente. L'an passé, c'était, son nom m'échappe, qui est iranien, franco-iranien.
Reza,
bien sûr, formidable, qui est venu avec sa femme, et toujours quelque chose de très convivial. Et puis n'oublions pas que ce festival vit avec une centaine de bénévoles, et les photographes du monde entier sont accueillis chez l'habitant. Ça aussi, c'est un très beau geste.
Et avec la bénédiction de Peter Knapp aussi, oui, qui est un grand monsieur, que tous les gens qui ont connu Dim Dam Dom, par exemple, ou Vogue, connaissent bien, et qui est chez lui, d'ailleurs.
Qui est parrain éternel, je crois.
J'avais dit à Peter Knapp, j'ai dit, t'es pas Peter Knapp, t'es Pierre Vert Knapp, quoi. Donc, et ça lui avait beaucoup plu, parce que c'est un festival attachant. Donc voilà, beaucoup d'interviews, beaucoup de bonheur, et puis le sentiment, à la fin, de se dire que j'ai réussi, comme vous, hein, comme vous deux, Nathalie, Olivier, et puis toutes les gens de Fréquence Mistral, j'ai réussi à construire quelque chose, quoi. Et d'amener du bonheur, d'amener un plaisir, un divertissement, évidemment. La radio, c'est le divertissement.
Le partage.
Et puis l'information, évidemment. Donc, Information, je préfère ne pas en parler parce que vous avez remarqué que j'ai cité aucun élu parmi les, les personnes. Mais non, je préfère pas. C'est pas des gens qui m'ont marqué et en même temps, ça passe, les élus. Par contre, Pierre Amoyal, non, ça passe pas, quoi. C'est un grand monsieur.
Après, les actions des élus restent tout de même, François.
Heureusement. Heureusement, parce que c'est quand même notre argent qui est utilisé. Hein. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais.
Sylvie Gionneau, nous parlions photographie. Votre père avait des amis plutôt peintres. Il avait des amis peintres.
Oui.
Et des amis photographes.
Beaucoup d'amis peintres.
On a parlé de Lucien Jacques.
Oui. Il n'y avait pas que Lucien Jacques.
Non, bien sûr.
Mais ça, c'était l'ami de la famille.
Oui.
Lucien Jacques, il faisait partie de la famille. C'était pas un étranger pour nous.
C'était un oncle pour vous ?
Oui, ma sœur et moi, d'ailleurs, on l'appelait oncle. Moi, je déformais étant toute jeune. Le mot oncle ne passait pas, j'arrivais pas à le dire, et j'avais trouvé un nom qui me plaisait, c'était Cacoun. Donc Lucien Jacques est devenu Cacoun. Même pour lui, il trouvait que c'était un nom qui lui plaisait, qui lui allait très bien. Donc il est devenu Cacoun toute sa vie.
Et les autres amis peintres, qui étaient-ils ?
Oh mon Dieu, il y avait Ambrogiani aussi qu'il connaissait, il y avait Pierre Berger, Bernard Buffet. J'en arrive pas à dissocier les deux noms, c'est pour ça que j'ai dit Pierre Berger au lieu de Bernard Buffet. Ils étaient venus d'ailleurs tous les deux quand ils étaient très jeunes à Manosque, ils sont restés assez longtemps. Et puis il y avait Thévenet, il y avait des tas de peintres, je ne peux pas tous vous les citer.
Vous receviez beaucoup de personnes, ils recevaient beaucoup de monde.
Oui,
oui. Des amis, je veux dire.
Tous les gens qui sont enracinés quelque part et qui ne se déplacent pas. C'est eux qui reçoivent.
Sur le dit venir à Manosque.
Pas les voir, c'est eux qui venaient le voir à Manosque. Et puis, il y avait notre cousin Serge Furiot, il ne faut pas l'oublier, son cousin Germain qu'il aimait beaucoup, voilà, qui a fait deux portraits de lui.
Nous allons écouter une nouvelle petite pause, une mini-interview concernant la radio.
Les 5 et 6 juin, deux jours de direct sur nos antennes pour la fête de la radio.
Marie, quel est votre métier ou votre occupation ?
Je suis responsable événementielle et chargée des relations presse à l'Office de tourisme et des congrès du Pays de Manosque.
Marie, quel est votre rapport à la radio ? Vous écoutez la radio ?
J'écoute la radio depuis que je suis toute petite. J'ai été bercée par la radio, notamment par France Inter. Et c'est vrai que je l'écoute beaucoup en direct et maintenant je l'écoute de plus en plus en podcast. J'écoute beaucoup Radio France, France Inter, France Culture, France Musique. Et puis depuis plus récemment, parce que j'aime beaucoup leurs choix musicaux, Radio Nova.
Qu'est-ce que vous écoutez à la radio ? Des informations, des documentaires ?
J'écoute plus des documentaires où j'aime beaucoup j'aime beaucoup écouter de la musique, mais j'aime aussi beaucoup les histoires de vie. Il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Pieds sur Terre sur France Culture, mais aussi LSD sur France Culture. Et je suis aussi une fan de Affaires Sensibles, parce que voilà, c'est toujours très très bien raconté. Il y a beaucoup de suspense. J'aime beaucoup la voix de Fabrice Drouel. Voilà, c'est vraiment. J'ai vraiment un rapport à l'écoute. Je préfère la radio à l'image parce qu'on peut l'écouter dans sa voiture, dans son lit. Je fais aussi beaucoup de courses à pied et j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts en courant.
Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance liés notamment en famille et avec la radio ?
Oui, quand j'avais 10-12 ans, j'écoutais l'émission de Laurent Ruquier sur France Inter. Je ne sais plus, ça devait être tous les jours à l'époque, vers 11h. Je me rappelle encore d'écouter cette émission dans ma chambre quand j'étais adolescente.
Et votre famille écoutait la radio également ?
Oui, c'est vrai, ils écoutaient beaucoup la radio à la maison, en voiture en fait. Et même pendant mes études, j'écoutais beaucoup la radio.
Que pensez-vous des radios associatives ?
Alors, je trouve que les radios associatives sont très importantes parce qu'elles sont liées au territoire. Elles sont beaucoup plus proches que les radios nationales dont il faut avoir besoin bien sûr pour d'autres choses, mais je trouve que c'est très très important toutes ces radios locales, associatives, parce que voilà, elles sont liées à vraiment ce qui se passe chez nous. Elles sont aussi réalisées par des gens qui travaillent et qui vivent sur un territoire et c'est vraiment très très important qu'elles restent là.
Depuis 1987,
c'est la fête de la radio.
À Fréquence Mistral. Mais pourquoi de 1987 ?
J'avais moins 10 ans à l'époque.
C'est la création de Fréquence Mistral.
Le 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio.
Fréquence Mistral, fête de la radio.
De retour. retour pour cette dernière partie d'émission avec Nathalie en régie et à la voix. Merci Nathalie une nouvelle fois. Et François Malabave et Sylvie Gionneau qui sont pour cette fête de la radio présent. Alors Sylvie Gionneau, vous vouliez évoquer un moment d'actualité assez récent. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est-à-dire que mon père nous a fait un clin d'œil cette année grâce à un jeune étudiant qui est allé fouiner dans les archives nationales à Paris pour faire une thèse qui n'avait aucun rapport avec mon père et qui est tombé sur un carnet de voyage, un voyage que mon père a fait à pied dans la Haute-Drôme en 1939. Comment ce carnet a-t-il pu arriver aux archives nationales depuis plus de 85 ans, coincé là ? Il n'y avait aucune façon qu'il ressorte là, sauf la curiosité de ce garçon qui a été intrigué de voir le nom de Jean Gionneau sur un manuscrit, puisque c'est écrit de la main de mon père. Et c'était tout simplement un voyage que mon père a fait donc à pied pour faire des repérages pour un prochain roman qu'il avait en mémoire et qu'il voulait rédiger, qui s'appellera, et d'ailleurs il l'a écrit plus tard, « Les grands chemins ». Donc ce carnet, c'était un carnet de travail, mais en fait ça lui a servi d'alibi en 39, à un moment où la justice lui demandait justement où il se trouvait à telle période. Il a montré ce carnet pour montrer qu'il était en Haute-Drôme et non pas là où on disait qu'il était. Et écrit derrière le carnet, il y avait à rendre à l'intéressé après examen et après non-lieu. Il y a eu examen, il y a eu non-lieu, mais 39, la guerre était déclarée et on avait autre chose à faire que de rendre un carnet à un auteur. Puis là-dessus, mon père l'a totalement oublié. En 51, il a écrit, donc, avec ses souvenirs, il a écrit « Les grands chemins ». Il n'avait plus besoin de ce carnet parce qu'il avait emmagasiné tous ses souvenirs, il avait une mémoire fabuleuse. Et puis, tout ça est rentré en sommeil. Il en parlait souvent, il en parle dans son journal de ce carnet qu'il avait perdu. Et puis, il a émergé donc l'année dernière grâce à ce jeune homme de 23 ans, M. Crovella, qui viendra d'ailleurs cet été pour les rencontres. Pour les rencontres, il pourra vous raconter un petit peu comment il a découvert ce carnet. Et moi, j'ai vu un clin d'œil de mon père qui avait décidé peut-être qu'il fallait déterrer et retrouver ce carnet qui a été pris tout de suite par Gallimard, très heureux de le retranscrire et de l'éditer. Il a paru il y a quelques mois.
On vous l'a restitué ?
Et alors, moi, j'ai écrit pour... Non, on ne me l'a pas restitué, reporté aux archives. Et j'ai quand même trouvé curieux que ce carnet ne me soit pas rendu. Alors, j'ai écrit au ministère, et là, j'ai fait rire beaucoup de monde en me disant, « Oh là là, tu écris au ministère, mais tu vas voir, on va t'envoyer au plot, ou on ne va pas te répondre, on va te demander des tas de choses, de prouver que tu es bien l'héritière de ton père. » Eh bien, écoutez, 15 jours après, j'avais une réponse positive. Et j'ai pensé donc qu'on allait me renvoyer le carnet de mon père, c'est un cahier d'écolier d'ailleurs, dans un paquet postal. Non, 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 il a fallu qu'on me le restitue de façon très
solennelle.
Solennelle et noble. Et c'est Madame Rachida Dati qui me l'a remis il y a quelques semaines, même pas 15 jours. Je suis donc allée à Paris récupérer le carnet de mon père, ce qui fait maintenant j'ai le manuscrit du carnet, j'ai le petit carnet qui est édité par Gallimard et j'ai le roman qui a servi dont s'est servi mon père pour créer cette histoire des grands chemins. Et j'en suis très très contente et très fière et je remercie mon père au-delà d'avoir fait émerger ce cahier.
Et ce clin d'œil une nouvelle fois, voilà. Toujours heureux. François ?
Par un jeune homme de 23 ans qui le découvre dans le cadre de ses études, c'est magnifique. Donc on a encore des choses à découvrir sur Jean Gionneau.
J'espère.
Et c'est superbe, quoi. Franchement, une très belle histoire. Je vais prendre le relais parce que Olivier a des soucis, mais c'est ça aussi le direct.
C'est ça le direct, justement.
Donc simplement rappeler combien Jean Giono a été négligé à Manosque, et ça m'a fait mal dès le départ, quoi, de me dire tiens, on a un grand homme, un grand écrivain qui est originaire d'ici, qui a écrit sur Manosque et qui est négligé par certains manosquins. D'ailleurs, à Manosque, on ne dit pas Jean Giono, on dit Monsieur Giono. Hein. C'est différent.
Qu'en est-il des nouvelles générations ?
Alors, l'homme qui plantait des arbres. Voilà. Après, est-ce qu'on va aller jusqu'à lire Le Hussard sur le Toit ? Non, on va se contenter du film de Jean-Paul Rapneau. C'est un peu réducteur, quoi. Je le disais à Sylvie il y a quelques années, quand j'ai lu Le Hussard sur le Toit, j'ai pas pu manger du riz au lait pendant 6 mois parce que bon, les personnes atteintes de choléra ont des déjections particulières et Giono dit c'est du riz au lait, ce sorte de riz, j'ai pas pu en manger, quoi. C'était pas possible. C'est un livre qui est absolument hallucinant. Quand votre père descendait manger, vous nous racontiez que votre mère lui demandait combien tu en as tué aujourd'hui.
Donc, elle n'était pas contente d'ailleurs.
Oui, mais il se vengeait un petit peu, quoi, des manosquins.
Totalement.
C'était comme ça, quoi. Et c'est la magie de l'écriture. Quand Giono disait, on a passé beaucoup d'interviews de Jean Giono à la radio pendant les émissions avec Jacques, il disait, vous savez, quand vous avez besoin de dire, il y a 10 corbeaux ou 100 corbeaux ou 10 morts, 100 morts, c'est juste un zéro ou un truc que vous rajoutez. Au cinéma, c'est complètement différent. Et Jean-Paul Rapneau le sait bien, ça aussi. Parce que bon, c'est particulier. Et Hans Sylvester, qui a été le photographe de plateau, nous racontait que les fameux corbeaux qui mangeaient les cadavres, Rapneau leur disait aux figurants qui étaient allongés par terre, et avec des corbeaux qui venaient leur picorer un bout de viande qui était là, et des fois ils bougeaient, et Rapneau leur disait « Ne bougez pas, vous êtes morts !» C'est magnifique.
Ouais, c'est très beau. François, ma question était toute simple, mais bon, cette petite crise d'atteinte de pollen, j'en suis désolé. François, vous aviez réalisé en fait plus d'une trentaine d'émissions avec Jacques Meynier autour de Jean Giono,
oui.
Il me semble.
Hein,
on est approché pas mal des 40. Oui. Et une heure à chaque fois, vous avez évoqué chaque livre. Quel était le contenu de ces émissions ?
Eh bien, il y avait une rubrique qui, moi, me passionnait. D'abord, je ne parlais pas, Jacques non plus, ce qui était très difficile d'ailleurs.
Oui.
Eh bien, c'était la voix de Giono, c'est-à-dire qu'on écoutait des interviews. Votre père a beaucoup répondu à des interviews radio, et on avait la possibilité d'écouter Giono parler, et c'était un personnage volubile et en même temps beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Et pour moi, c'était le moment fort de la voix de Giono, de ses émissions. Après, ça dépendait des invités. Donc souvent Jacques parlait d'un programme de manifestation, il faisait de la com, comme on dirait maintenant, et puis tout d'un coup on avait un invité qui était là et qui parlait de son rapport avec l'œuvre de Giono. Ça pouvait être un peintre, tout à l'heure je citais Emmanuel Lambert par exemple, qui nous racontait et à qui je disais, on était installé à l'époque à la boulevard des Tilleuls, je lui dis mais quand vous alliez au Paradis, vous êtes passé devant la radio une dizaine de fois, certainement. Donc bon, elle était en centre-ville, donc c'était assez marrant. Et puis bon, après j'ai eu malheureusement le plaisir, entre guillemets, d'interviewer Emmanuel à la mort de Jacques Meynier. Là aussi, c'était très émouvant.
Il y avait aussi des guides. Il y a des guides qui font des promenades avec des lectures de
oui.
romans de Giono.
Oui, il y en a.
C'est
plusieurs.
Quand même une excellente idée. Oui. Sylvie Giono, je pense que Françoise joindra à moi pour vous remercier beaucoup de votre venue sur ce plateau.
Moi qui vous remercie.
Et on vous sent heureuse toujours d'évoquer votre père.
Oui, il est toujours avec moi, vous savez. Il n'est pas pesant. Il n'a jamais été pesant de toute sa vie.
Quelle chance.
Et après sa mort non plus.
Quelle chance. Sylvie Giono, merci beaucoup. François Malabave, merci infiniment d'être venu. Alors, pas trop nostalgique du micro ou au contraire,
non,
heureux retraité.
Juste un mot, quoi, tout simplement, lisez Giono, quoi. C'est tout.
Absolument. Merci à vous. Idée. Merci Nathalie Beau. Merci beaucoup Nathalie pour la régie. Merci à vous et à très bientôt sur Fréquence Mistral.
Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio. Plus de 100 ans après la première diffusion radiophonique, Fréquence Mistral vous invite à célébrer cet événement avec nous. Fréquence Mistral.